Bonsoir. Ouverture ce mercredi 24 juillet 2024 du procès de Corneille Nanga, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante et actuel leader de l'Alliance Fleuve Congo devant la cour militaire de Gombe, siégeant à la prison militaire de Ndolo. Ce procès concerne 25 accusés. Les prévenus sont accusés des crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison dans la partie est de la RDC. Par son pouvoir d'injonction sur le parquet, le ministre de la Justice a accéléré l'instruction pré-juridictionnelle. Il considère ce procès d'historique. Quelle lecture faites-vous de l'organisation de ce procès? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 24 juillet 2024. Participe au débat Yves Kisombe, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Il est le porte-parole du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Maître Kisombe, bonsoir.
Bonsoir, Madame Kelly Couté.
Ferdinand Kambéré, avocat, secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo, FCC en sigle. Maître Kambéré, bonsoir.
Bonsoir, Madame Kelly.
Et Jean-Claude Katende, avocat et président de l'Association africaine des défenses des droits de l'homme, AZADO en sigle. Il est également vice-président de la Fédération internationale de droits de l'homme, FIDH. Maître Jean-Claude Katende, bonsoir.
Bonsoir, Madame Kelly.
À Kinshasa, vous nous suivez sur la 103.5. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radio-okapi.net, sur Canal Plus, Channel 572, sur DSTV, Canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en live sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le code X de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Je l'ai dit, ouverture du procès contre Corneille Nanga, président du mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo et consort, ce mercredi devant la cour militaire de Kinshasa Gombe à la prison de Ndolo. 25 prévenus dont 5 présents et 20 absents sont poursuivis par la justice militaire pour 3 infractions, à savoir crime de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison. Jeff Ngoy nous en dit plus.
Luc Safari, Nikez Samafou, Jean Basséane Nanga, jeune frère de Nanga, Eric Nkumba et Kamdia Chamachabo sont les 5 prévenus présents. Leur identité déclinée renseigne qu'ils sont tous Congolais en provenance du Nord Kivu pour les uns, d'autres résidents à Kinshasa et un autre venu de Nairobi. Parmi les défaillants figurent le chef de l'AFC Corneille Nanga, Bertrand Bissimoua, Makenga du M23, les anciens journalistes Magloire Paluku et de Lyon Kimbulungu. Étant en cavale, selon le ministère public, la cour retient pour eux le défaut et le code de procédure judiciaire n'admet pas d'avocat pour défendre les absents. D'après toujours l'accusation, les prévenus qui comparaissent ont commis des faits infractionnels sur une période non autrement couverte, soit en 2023, notamment la trahison par le fait d'avoir entretenu des intelligences avec le Rwanda afin de déclencher des hostilités contre la RDC, d'avoir participé à des violences, hostilités contre le pays à travers la branche armée de l'AFC, le M23. Après avoir pris connaissance de ces faits, la défense a sollicité et obtenu une remise pour mieux se préparer à affronter le ministère public ce jeudi.
Merci Jeff Ngoy pour ce reportage. Je vais demander à mes invités d'utiliser un langage assez simple pour permettre à nos auditeurs de pouvoir comprendre le pourquoi même de l'organisation de ce procès. Je sais que je suis en face des juristes, tout le monde n'est pas juriste, donc simplifier le langage. Maître Yves Kisombe, je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Gombe, porte-parole du ministre d'État, ministre de la Justice et des gardes. Et garde des Sceaux, voilà. D'abord, c'est quoi l'objectif poursuivi derrière ce procès?
L'objectif, c'est la justice. L'objectif, Madame Kelly Couté, c'est la défense de la patrie, la défense de nos populations, la défense de notre intégrité territoriale, la défense de la RDC face à l'agression rwandaise qui malheureusement passe aussi par la trahison de quelques compatriotes. Et merci pour le rappel du besoin de pédagogie. Ça montre que si nous sommes là, j'aurai l'occasion de le rappeler plus tard, c'est parce que Radio Capi, je salue tous les auditeurs, est une radio qui est écoutée parce qu'elle est crédible. La crédibilité vient du fait qu'à un moment, on doit sentir, même dans la divergence, un minimum d'objectivité. Et donc, voilà, nous sommes là pour parler de la RDC et de la paix et de la sécurité qui posent problème dans notre pays depuis des décennies, essentiellement dans la partie Est. Vous avez des Congolais qui se complaisent à servir l'ennemi, à commettre des actes insurrectionnels, à aller dans le terrorisme, dans la rébellion, des choses totalement contraires au sursaut patriotique. Alors, le pays est en guerre. La guerre, c'est plusieurs fronts, vous le savez. Le ministre Kambéré le sait. Nous avons longtemps eu à travailler dans ce sens-là. Il y a le front militaire, diplomatique, et aujourd'hui plus que jamais, le gouvernement de la République, bien sûr, par la volonté du président de la République, veut marquer le front judiciaire également. Parce que défendre le Congo, c'est aussi faire que la justice puisse passer au niveau interne et au niveau international.
Alors, l'opportunité d'organiser ce procès en ce moment.
Mais il y a des faits infractionnels qui sont commis depuis des mois, et même des années. Alors, il est tout à fait normal, en tout temps d'ailleurs, en tout temps, la justice militaire dans notre pays prend en charge tous ces faits-là. Ce n'est pas nouveau. Donc, s'il y a un retentissement médiatique, c'est parce que l'actualité le veut, il s'agit de la situation à l'Est, mais je tiens à rappeler que tous les jours, nos juridictions civiles et militaires traitent des affaires criminelles de ce genre. Hein, les tribunaux de garnison, comme les cours militaires à travers le pays, font ce travail. C'est parce qu'il y a un retentissement particulier aujourd'hui en raison de l'importance, j'allais dire, politique et historique de cette actualité. Parce qu'au cœur de cette guerre d'agression, vous avez une réaction au niveau du front judiciaire. Et c'est extrêmement important.
Mais... quel impact aura ce procès sur le retour de la paix? Le cerveau moteur, Corneille Nanga, n'est même pas sur place. Comment sera-t-il jugé alors qu'il se trouve dans l'est de la RDC?
Oui, justement, Madame Kouté, il s'agit pour nos compatriotes, et ils le savent, de comprendre que la justice est un service public. La justice se doit de s'exercer. Et la loi a prévu ce genre de situation. Vous avez suivi sans doute l'audience d'introduction d'aujourd'hui. Il s'est agi d'identifier les prévenus. Vous savez, vous avez compris, vous êtes informé que la loi a prévu ce genre de cas où, ne pouvant pas mettre la main sur les prévenus, ne pouvant pas les atteindre par des adresses précises, ces prévenus étant en fuite, la loi, parce qu'il ne peut y avoir de déni de justice, la loi a prévu qu'ils soient jugés par défaut. Et c'est ce qui est en train de se faire, parce qu'il y va de l'ordre public, il y va de la sécurité nationale, il y va de la sécurité publique aussi. On ne peut pas donner l'impression à nos compatriotes qu'au-delà du conflit militaire, du front diplomatique, il faut trouver normal, quelque part, que ceux qui ne sont pas d'accord, comme on a vu des anciens camarades de Monsieur Kambéré, changer, quitter le combat démocratique, parce que Monsieur Kambéré est un dirigeant de parti démocratique. Et il ne faut pas que des gens qui font cela, qui quittent le terrain démocratique pour le terrorisme et la rébellion, eh bien, donnent une impression de normalité. Et pour ça, c'est la justice qui est chargée de l'ordre social et de l'ordre public en réalité en termes de fondement. Voilà pourquoi la justice doit intervenir. Le ministre d'État, ministre de la Justice, M. Moutamba, ne fait que son travail en tant que responsable de la politique judiciaire, de la politique pénale du pays, dans le cadre de l'action du gouvernement, donner l'impulsion. Vous savez que la loi lui donne le pouvoir d'injonction positive, il est appelé à pousser partout où le juge doit faire son travail, partout où le parquet, civil ou militaire, doit agir, il n'a juste pas le droit de freiner l'action de la justice.
Alors comment vous répondez à cette frange de la population qui pense que c'est une démarche populiste et qui n'aura pas d'impact ?
Madame, le populisme est utilisé aujourd'hui à tout vent, à tort et à raison. Tout ce qui est fait au niveau de l'action politique, qu'il s'agisse, moi je vous parle aujourd'hui dans un cadre institutionnel, hein, et en tant qu'avocat de la République, en tant qu'avocat, comme mon confrère Maître Kambéré. Maître Kambéré, le ministre Kambéré, va vous parler en tant que responsable politique aussi. Vous, madame, vous nous invitez ici comme radio crédible qui a l'écoute des Congolais. Ça veut dire que, quel que soit notre angle d'approche, il s'agit toujours de l'intérêt général et des questions qui nous touchent tous. Donc forcément, je sais que Maître Kambéré va peut-être faire beaucoup de politique à un moment donné, mais il s'agit vraiment de considérer les choses comme elles sont. Comme quand il était au pouvoir, nous étions contre les insurrections, contre le terrorisme. Nous avons été les premiers à condamner et à définir le M23 à l'époque comme mouvement terroriste. Merci.
Maître Ferdinand Kambéré, vous êtes avocat, secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo. Qu'est-ce que vous pensez de ce procès contre Corneille Nangaa et toute sa clique?
Merci Madame Kelly pour cette opportunité que vous nous accordez. Et surtout que je débat avec mon frère Yves, même si de temps en temps, lorsqu'il parle des autres, il fait comme si lui-même c'était pas ses camarades. Et autant qu'ils sont allés à l'Union Sacrée, les autres ont pris aussi leur tangente. C'est cela. Donc nous, on est restés là où ils nous ont laissés, et c'est ça. Lorsque j'ai été approché par vous, madame, pour que je vienne participer à ce débat, moi-même je me demandais ce que je vais dire, surtout que je n'ai pas suivi le déroulement du débat. Maintenant que j'apprends que ce n'était que la première audience et qu'on
était... Le procès n'a commencé qu'aujourd'hui
et qu'aujourd'hui il n'a été question que de l'identification de ceux qui sont cités. Le problème pour nous, Madame Kelly, ce n'est pas les procès. Parce que nous tous, nous sommes contre ce qui se déroule à l'Est. Les crimes internationaux. L'impunité. On est contre. Et je peux vous montrer les efforts qu'a fait le raïs Joseph Kabila Kabange pour qu'on arrive au texte que nous avons aujourd'hui. En 2002, lorsque on change finalement, on vote un code pénal militaire, ce code-là a remplacé les codes de justice militaire de 1972. Et vous le savez, donc en 2002, c'était au moins l'idée de cette rébellion qui venait de naître à l'Est, les RCD, et qui commettait énormément de gaffes, énormément des affres de guerre. Vous savez tout ce qui a massacré les caciques à Makobola et tout ce qui était. Le gouvernement à Kinshasa a essayé d'imaginer qu'il fallait des réformes nécessaires parce que le code de justice militaire de l'époque ne disait pas assez à ce qui concernait les crimes et qu'il fallait donc plus ou moins définir les crimes et essayer de les réprimer. Ça, c'était les raïs déjà à son avènement au pouvoir en 2002. Mais la difficulté, c'était quoi? Ce qu'ils occupaient déjà un grand terrain. C'était déjà un pouvoir de fait là-bas. Et que tout ce qui était dans les zones contrôlées par les RCD, comment le pouvoir de Kinshasa allait les arrêter, les reprimer, les juger? On peut bien avoir des procès, avoir même des jugements, des condamnations. Mais il faut les exécuter. C'est ça l'effet d'une justice. Vous savez, en plus de ça, les Raïs Kabila Kabange a pensé qu'il fallait aussi adhérer au statut de Rome de 2002, qui venait d'être adopté. On a fait tous les mécanismes de ratification à ces statuts-là, parce qu'au moins, c'était une première qui donnait un temps pour que ces crimes-là ne se commettent plus jamais dans ce pays. Mais madame, les intelligences de partout pour mettre fin à la guerre, pour promouvoir la paix, ça n'a pas été le procès pénal qui a été suivi comme schéma. Les gens ont été appelés à Sand City. À 2002, je crois, vers la fin de cette année 2002, à Sand City, pour un dialogue. Et il y a eu un dialogue, ça c'était l'effort de la communauté internationale, des aides, des autres, pour mettre fin à cette guerre-là. Il fallait que ceux qui se disent congolais parlent. Sous la table.
Et vous estimez donc que ce procès n'a pas sa raison d'être si on suit votre logique, il faut aller au dialogue.
Madame lui-même a parlé de la complexité d'IA dans cette histoire-là. Si vous suivez bien les discours déjà du pouvoir où ils disent il faut parler avec Kagame, il faut parler avec Museveni, tantôt il ne faut pas parler, il faut parler avec M23, tantôt il ne faut pas parler. C'est ça qui est controversé dans ce qu'on veut nous créer, et ça apparaît justement comme une action un peu populiste lorsque les mécanismes qui devaient ramener la paix à l'Est, madame. Hein, pensez à ceux-là qui sont sous occupation de ce pouvoir-là. Pensez à la genèse même de ces M23 ressuscités par les régimes ici. Pensez à tous ces gens-là. On m'appelait déjà ce soir ici que depuis hier, FDLR, Nyatura, parfois confondu, Mai Mai, parce que maintenant là, il y a des groupes armés pour gouvernement, il y a des groupes armés pro M23, pro Rwanda, pro Ouganda, ils sont en train de se tirer dessus et c'est la population qui continue à souffrir. Mais entre-temps, le premier qui a montré que lui, Kagame et Museveni, il y avait un conflit et qu'il fallait les réconcilier, c'était qui? C'était Félix. À Luanda, c'était, je crois, en 2020. C'était le premier. C'est ce manque de cohérence dans l'action qui est en train d'être menée qui nous surprend. Parce que hier, c'était lorsque les S se jetaient des salives que Museveni est sorti dans le média. Parce que je voulais continuer pour vous montrer la sérieuxité qu'il y avait jusqu'aux réformes du code pénal de 2015 pour finalement intégrer ou internaliser la norme internationale qu'est les statuts de Rome dans nos codes pénals qu'aujourd'hui nos juridictions peuvent réprimer comme on est en train de les voir. Donc, ces efforts-là ont été là. Mais il faut voir, de 2010 à 2015. Aujourd'hui, grâce à ça, on a eu des condamnations contre les gens du M23, qui étaient des auteurs de crimes de guerre, ce qui n'était pas prenable. Il y a eu des mandats, mais qui a supprimé tout ça? C'est ces régimes, madame. Est-ce qu'aujourd'hui, ils veulent nous dire que cette fois-ci, ils ont compris que c'est la répression? Alors que si le pays est revenu à cette situation où la population est devenue encore plus exposée aux crimes de guerre à cause de ce retour de guerre à l'Est. C'est eux le pouvoir. Nous aurions voulu qu'il y ait plus de volonté que ça.
Je m'en vais rappeler, par exemple,
aujourd'hui, parce que nous parlons du ministre de la Justice, ministre d'État, qui réalise un peu tous les autres. Les professeurs Louzolo sont passés par là et tous les autres. Aujourd'hui, les gens sont au niveau où il faut parler de la justice transitionnelle, où seule la répression pénale ne suffit pas. Et qu'il faut imaginer des mécanismes où corruption, il faut arrêter ça. Nous devons, nous, éviter des régimes dictatoriaux qui amènent encore plus de divisions, les tribalismes. C'est des actes qui préparent bien que nous revenions à la case départ. Et que donc, les efforts que la population attend, c'est pas un procès où comme vous l'avez dit, les acteurs majeurs...
On va peut-être décourager toutes ces personnes qui ont l'intention de rejoindre Nanga.
Madame,
sur la rébellion.
Attendez tous ceux qui parlent, toute cette communauté internationale qui parlait à Félix, qui parlait à Kagame, qui parlait à Museveni, qui parlait à Lorenzo et qui leur demande de se parler. Vous avez votre jugement de condamnation ici, et lorsque vous serez avec Lorenzo, il va dire, enlevez ça, Nanga va arriver là-bas. C'est quoi? La population là, est-ce qu'on passe à cette population de Masisi, de Rutshuru, de Bunagana où ça a commencé, de Kanyabayonga, de Kassé et de tout ça, Nyamirima? Est-ce qu'on pense à ça?
Kinshasa, il n'y aura pas de dialogue. Kinshasa est catégorique par rapport
à ça. Mais qui nous montre la volonté, justement, qui nous montre bien la volonté que c'est plutôt l'armée qui est en train de frapper les M23, que c'est l'armée qui est en train de frapper les EDF et que ce ne sont plus et Museveni qui sont là et les FDF,
tout ce qu'est
la population. On n'a pas besoin de dialogue, mais alors on a besoin d'un gouvernement responsable.
On vous a compris, merci beaucoup. Jean-Claude Kiatende, avocat et président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, Agador en sigle, et également vice-président de la Fédération internationale de droits de l'homme, FIDH. Maître Kiatende, votre lecture par rapport à l'organisation de ce procès contre Corneille Nangaa et consorts. Maître Kiatende, vous êtes en ligne?
Oui, vous m'entendez?
Maintenant, on vous entend. Vous avez la parole.
Oui, je disais que merci de m'avoir associé à ce dialogue entre Congolais. Et en suivant les deux premiers intervenants, j'ai peur qu'on risque de parler du processus de paix au lieu de parler du procès en lui-même. Et ça, c'est un danger d'être dans un débat avec les politiciens. Et je dis en ce qui me concerne que la justice est à la fois une vertu, mais aussi un service public. Monsieur Yves Kisombe, en intervenant à la question que vous lui avez posée de savoir quel est le but de ce procès, il a parlé du besoin de justice. Et ça, c'est important. Ce besoin de justice ne concerne pas seulement les victimes. Même les personnes qui sont mises en cause ont besoin aussi de la justice. Et cela veut dire pour moi que nous sommes dans une république. Et quand un procès est organisé dans une république, on doit s'assurer que les garanties d'un procès juste et équitable sont au rendez-vous. Et la question que je me pose est celle de savoir, dans le contexte actuel, même si moi je condamne la décision de M. Nanga, il est libre d'adhérer à n'importe quelle association, à n'importe quel mouvement, c'est son choix, mais nous devons savoir que chaque choix que nous faisons a des conséquences. Et que moi je n'approuve pas son acte de s'être mis au service d'une puissance étrangère pour prendre les armes et tuer ses propres concitoyens. C'est un acte qu'il faut condamner. C'est un acte qu'il ne faut pas encourager. Mais parce que les faits qu'ils ont commis appellent au procès actuel, nous devons nous assurer que les garanties d'un procès libre, indépendant et équitable, juste aussi, sont au rendez-vous. À entendre le ministre de la Justice et M. Kisombe tout à l'heure, il me donne tous de l'impression que le ministre s'est immiscé dans cette procédure pour pousser à ce que le procès soit le plus rapidement mis en exécution, sans s'assurer que tous les éléments pour un dossier aussi important, il ne peut pas être instruit dans un temps très court, surtout que les droits et libertés des citoyens sont mis en cause. La célérité risque d'empiéter sur les garanties d'une bonne justice, d'une justice juste, garantie à tous. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, on peut dire que M. Nanga et les autres qui ne sont pas présents à Kinshasa vont bénéficier d'une justice juste et équitable? Ma réponse est non. Et donc,
pourquoi, selon vous?
Ma réponse est non, tout simplement parce que je me pose la question de savoir est-ce que ce procès a été porté à la connaissance de M. Nanga par un acte de signification régulier. Même si nous savons que M. Nanga n'est pas atteignable. Mais le processus de signification doit se mettre en place de manière régulière. Et dans le cas d'espèce, on peut faire à l'appel à l'article 61 du Code de procédure pénale qui exige que dans le cas où une personne n'a pas de domicile ni de résidence connue en République démocratique du Congo, que son acte de signification soit affiché devant les tribunaux ou devant la cour qui doit connaître sa cause. Et cela 3 mois avant que la cause ne soit fixée, ne soit appelée par les tribunaux. Est-ce que toutes ces procédures ont été faites? Si elles n'ont pas été faites, je pense que là, nous avons plus affaire à un procès qui risque d'avoir un caractère politique qu'un caractère judiciaire. Je pense que c'est important qu'on comprenne qu'on est dans une république, et dans une république, ce n'est pas une justice de vengeance. Dans une république, ce n'est pas une justice orientée. C'est une justice qui est à la fois au service, n'est-ce pas, des citoyens, des victimes, mais aussi au service des prévenus qui doivent bénéficier des garanties qui leur sont données par la loi. Pour finir, je voudrais dire que la justice peut aussi contribuer à la paix. Les procès peuvent contribuer à la paix. Et pendant la durée du mandat du président ou des mandats du président Kabila, on a privilégié la paix à la justice. Cette stratégie a montré sa limite. À un moment donné, notamment avec les dossiers de Bosco Ntaganda que tout le monde connaît. Même la justice transitionnelle n'exclut pas des procès. Il y a des affaires dans une justice transitionnelle qui peuvent être soumises au tribunal. Et le fait d'organiser ce procès ne veut pas dire que la République démocratique du Congo ne s'inscrit pas dans la justice transitionnelle. Voilà les quelques éléments que je voulais mettre à la disposition du débat pour éviter de politiser l'affaire, mais de se concentrer sur le procès que sur le processus de paix ou d'autres considérations. Merci.
Merci, maître Jean-Claude Katende, pour votre contribution au débat. Maître Yves Kisombe, vous avez suivi maître Jean-Claude Katende qui a soulevé une série des préoccupations, des questions qui s'est posées. Mais avant de revenir sur ces préoccupations, on va prendre ces auditeurs qui nous appellent. On va aller à Bukavu Sud Kivu pour écouter cet auditeur.
Gabriel Ekwalanga depuis Bukavu au Sud Kivu. Ayant appris cette nouvelle depuis hier, je me suis demandé à quoi servirait-il de procès au moment où aucun des incriminés n'est présent ni représenté par un avocat. Mais aussi ouvrir un tel procès au moment où tôt ou tard, les deux parties finiront par trouver la solution autour d'une table n'est-il pas aussi un procès inutile, dans la mesure où, quand il y aura dialogue, afin de mettre fin au conflit, et pourquoi les ministres de la justice ne comptent-ils pas donner injonction au parquet afin d'ouvrir des procès contre des détourneurs, des deniers publics qui appauvrissent la nation, au lieu de nous distraire avec des procès dont l'issue est connue d'avance?
Maître Kisombe.
Oui, mais madame, nous devons avoir des propos à la hauteur de la gravité de la situation. Hein? Une cour militaire ne fait pas de la distraction, c'est sérieux. Hein? Le dialogue, c'est le volet diplomatique. Nous ne dialoguons pas, nous, RDC, avec le M23, ni avec le Rwanda. Il y a un processus de Luanda, il y a un processus de Nairobi, il y a la communauté sous-régionale, régionale et la communauté internationale qui sont nos interlocuteurs diplomatiques. Donc c'est simple, il n'y a aucune contradiction dans la démarche de la RDC actuellement, contrairement à ce qu'a dit Ferdinand Kambere. C'est pas tantôt en dialogue, non, non. Pour le moment, la RDC a une position très claire. Alors, le compatriote qui a parlé de la condamnation par défaut, hein, quel est le sens? Les avocats ne peuvent pas défendre les prévenus absents. Mais c'est pour marquer, je lui explique, ça c'est technique, c'est pour marquer.
Il demande plutôt si
voilà, est-ce que ça
est représenté par un avocat.
Non, non, justement parce que les prévenus qui ne sont pas présents à l'audience sont dans une logique de jugement par défaut. Et donc, ils ne peuvent être défendus uniquement par des avocats sans leur présence, parce que jusqu'au bout, qu'ils soient acquittés ou condamnés, ce sera par défaut. C'est pour marquer le caractère de leur absence. Et vous savez qu'un avocat ne fait que représenter au procès pénal la personne qui est physiquement présente. Mais ce que je voulais dire, c'est relever la dangerosité. Parce que ici, quand on parle, s'il vous plaît.
Mais les craintes soulevées par Maître Jean-Claude.
Oui, je vais le dire. Oui, je commence par dire à Maître Katende que dans notre pays, on aime bien tenir un peu ce propos méprisant sur les acteurs politiques qui sont dans un discours à part. Non. Le propos politique, il doit être suffisamment nourri sur le fond, sur le plan technique. Nous sommes avocats. Nous n'avons pas le droit, de par notre profession, de venir parler des procès en cours. Ça, je le rappelle à Maître Katende. La déontologie ne le permet pas. Par contre, nous pouvons parler du contexte. Nous pouvons parler sur le plan pédagogique vis-à-vis de nos compatriotes. Mais nous ne pouvons pas nous mettre, sur le plan technique, à juger un procès en cours. Les avocats n'ont pas le droit de faire ça. Ok ? Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement important, mais nous pouvons évoquer les choses. Ce que Ferdinand Kambere a dit me désole beaucoup, parce que, évidemment, il se place vraiment sous l'angle de l'intérêt politique, politicien immédiat. Il quitte le patriotisme, qui est son école. Qui est son école ? Il est dans le débat politicien de tout sur l'adversaire. Alors qu'en réalité, ici, il s'agit de la RDC face à l'ennemi, qu'est le régime de Kigali, qui orchestre tous ses malheurs quand il parle des souffrances de nos populations à l'Est qu'il connaît si bien, beaucoup mieux que moi. Hein, donc, ça m'étonne de sa part de tenir ce discours où il ne voit pas lui-même d'abord la souffrance des populations. Maître Katende, il ne peut pas dire une chose et son contraire. Il dit que la justice pénale, la justice est utile, elle peut servir. D'ailleurs, même dans le cas de la justice transitionnelle, il y a un besoin de justice, j'allais dire, de droit commun aussi, etc. Mais il se contredit quand il critique, alors qu'on est au début de ce procès. Moi, je ne suis pas venu vous parler du travail de la Cour. Je ne suis pas venu défendre ce que la Cour est en train de faire, ce que le ministère public, ce que l'auditorat militaire supérieur.
Si toutes les procédures ont été respectées.
Mais justement, attendez,
indépendante.
Mais justement, en tant qu'avocat, il sait très bien que la cour militaire de Kinshasa-Gombe, qui est une cour supérieure, l'auditorat militaire supérieur, qui est le parquet militaire près cette cour. Mais ce ne sont pas des semi-professionnels. Quand ils parlent du code de procédure pénale pour évoquer les règles en matière de citation à prévenu, etc., il faut le ramener un petit peu plus tôt au code judiciaire militaire, parce que là, c'est plus strict. Donc, la régularité de la procédure, telle que nous l'avons suivie, moi, je ne suis pas porte-parole de la cour, ni du parquet militaire, ni de l'auditorat, mais je suis citoyen. Mais je porte la parole d'un ministère qui est chargé de faire que les citoyens s'entrent dans le pays. C'est ça le rôle d'un ministère de la justice. C'est que les citoyens sentent qu'il y a une politique de l'exécutif qui oriente les choses vers des résultats, vers des réformes. Les juges ne changent pas la loi. Les juges, ils disent la loi. Qui change la loi ? C'est le ministre de la Justice et le Parlement, par les projets de loi et par les propositions de loi. Donc c'est pour vous dire, madame, qu'on ne peut pas comme ça, dans ce cadre-ci, on n'est pas dans un débat sur le travail technique de cette cour. On dit simplement, parce que nous on ne peut pas comme avocat, on dit simplement, madame, que les citoyens doivent quand même faire un peu confiance. Les magistrats que vous avez vus, ce sont des magistrats professionnels. C'est pas à la radio ou à la télévision qu'on va leur apprendre leur travail. Les mesures de précaution, les mesures de garantie d'un procès équitable sont des obligations pour l'État congolais. Et vous pouvez être certain
que lorsqu'on les... On peut imaginer déjà...
Non, le ministre n'interfère pas. Le ministre conduit une politique pénale. Et quand on vous dit, il faut 3 mois, etc., mais s'il vous plaît, n'importe quel magistrat stagiaire sait que pour faire fixer une affaire devant le tribunal, il faut que son dossier soit suffisamment ficelé. Hein, donc arrêtons de faire comme si les auditeurs militaires, l'auditeur militaire supérieur, hein, c'est au niveau provincial ça, hein, au niveau des provinces, hein, il y a une cour militaire. Arrêtons de faire comme si c'était des apprentis. Ils savent ce qu'ils font et en définitive, madame, moi c'est le discours citoyen, pas politique. On ne peut pas faire comme M. Kambéré, venir défendre en réalité l'ennemi, et c'est dommage.
Merci.
À travers un discours mi-fig, mi-raisin.
Merci beaucoup. On va prendre ce deuxième auditeur qui appelle de Kinshasa.
Alphonse Tefou, depuis la ville province de Kinshasa. Je pense que le procès contre Nanga et consorts est un message très fort contre tous ces traîtres de la République. Et une leçon contre tous ceux qui tenteront de les rejoindre pour les imiter. Car, comment croire que les gens qui ont occupé les plus hautes fonctions du pays peuvent prendre les armes contre la même République qui les a nourris, c'est-à-dire qu'ils étaient irremplaçables dans un état de droit, tels sont irremplaçables les institutions. Cependant, la justice doit saisir cet acte de bravoure du ministre de la Justice et garde des Sceaux pour confisquer tous les biens qui appartiennent à ces terroristes, les vendre aux enchères pour financer la guerre qu'ils ont créée et soutenir les déplacés de cette guerre.
Que pensez-vous de cette réaction de Kinshasa, Maître Kambéré?
Je salue cet auditeur de Radio Capi. Je salue Jean-Claude, mon ami. Nous sommes de la même moule que Lazado. J'étais étonné qu'ils disent que nous risquons de voir dans la justice un processus de paix et confondre. Non. Mais quand il parle plus de la procédure pour inviter quelqu'un devant les juges. Moi, je ne suis pas venu pour ça, Madame Kedi. Je ne suis pas venu pour voir les actes de procédure, c'est comment, la célérité. Non, je ne suis venu défendre personne. Je parle donc du contexte de cette reprise de la guerre du M23. Je suis étonné que mon ami et mon frère Yves Kisombe ici disent comme ça que non, Kambéré est contre la population. Non, la population est en train de savoir que je suis en train de parler pour elle.
Et les gouvernements savent bien que lorsque je reviens à ce qui était comme des prérequis, ce qui était fait par d'autres ministres de la justice, lorsque, après les réformes de 2015, ce qui est prêché aujourd'hui, c'est l'approche holistique. Et cette approche holistique dans le cadre de la justice transitionnelle. Je regrette, mon frère Katende. Non. La justice transitionnelle a quatre piliers. C'est d'abord la vérité, c'est la justice, ça veut dire la justice doit traquer, doit réprimer tous les crimes de guerre. Moi, je ne me suis pas opposé à ça, même dans mes premiers propos. Parce que la justice transitionnelle, c'est d'abord la vérité. Les gens doivent se dire la vérité. Deux, on doit traquer tous les auteurs des crimes. C'est ce que Kabila a fait. Et Katende dit non, ce n'est pas ce qu'on a fait sous Kabila. On a fait l'approche paix. Et c'est comme ça, Kunda, et c'est pas moi, Taganda. Et que donc, on a oublié la justice. Non, on n'a jamais oublié. Félix a trouvé ici des gens qui étaient condamnés du M23 pour les crimes de guerre. Félix a trouvé ici des mandats pour traquer ceux-là qui n'étaient pas trouvés. C'est ça la justice. Donc, contre les crimes internationaux, contre les crimes humanitaires, il n'y a pas... Donc, c'est la tolérance zéro. Kamere ne peut pas dire le contraire. Tout celui qui est dans ces crimes, il sait que ces crimes sont imprescriptibles, madame. Et donc, que vous soyez qui... Et ceux qui abandonnent aujourd'hui la population, alors que vous avez les mécanismes des gouvernements pour protéger cette population, vous ne la protégez pas. Attention, les statuts des Roms risquent de vous rattraper, même quand vous êtes au gouvernement. Donc ce n'est pas tant seulement ceux qui sont dans les rébellions et qui commettent des crimes internationaux, les crimes de paix, les crimes contre la sécurité de l'humanité, qui sont eux aussi qui sont visés par les statuts des Roms. Même ceux qui gouvernent, lorsqu'ils abandonnent comme ça, la population est entre les mains des armes, ils sont aussi visés. Les quatrième piliers dont je voulais parler, d'abord, il y a la réparation qui est comme troisième. Les victimes, là, qui sont en train d'être victimes, et que mon frère, il veut dire que je parle. Non, je parle. Lorsque je rappelle au gouvernement, attention, les groupes armés, là, sont en train de se tirer dessus, mais entre-temps, la population qui est humiliée, elle continue à être victime. On continue à les massacrer. On continue à les chasser. Même ces chefs d'État qui soutiennent la fameuse occupation qui est à l'Est. Madame, je voudrais rappeler rapidement. Très rapidement. Parce que j'ai vu que presque tout le monde est contre moi. Très rapidement. Les derniers rapports des experts des Nations Unies qui révèlent finalement que même Museveni est en train de soutenir les M23. Vous avez vu la sortie du gouvernement? Ils sont presque allés dans le sens contraire de ces rapports des experts des Nations Unies. C'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi?
Merci.
Donc le quatrième pilier pour terminer, c'est les garanties de non-répétition des crimes. Nous devons nous rassurer que ce que le gouvernement fait, nous sommes dans le quatrième pilier de la justice transitionnelle qui est, est-ce que nous sommes en train de poser des actes qui ne permettront plus jamais qu'en République démocratique du Congo, comme Kabila a obtenu par exemple l'accord cadre d'Addis Abeba et que ce gouvernement sabote de 2013, a obtenu la déclaration de Kampala de décembre 2013 pour que plus jamais ils ne prennent plus les armes. Mais ils les ont amenés ici 14 mois.
Merci,
ils ont signé des accords
merci,
à gauche,
merci,
à droite, à tout ça. C'est de ça dont
on va prendre le troisième auditeur. Merci, monsieur Kambéré. On va prendre le troisième auditeur qui nous appelle de Bounia.
Allô, c'est Pianche à partir de Bounia. Le procès de Kone Nanka et d'autres accusés peut être interprété à travers plusieurs prismes, notamment politiques, judiciaires et sociales. Ce procès pourrait être perçu comme une manœuvre politique dans un contexte où les tensions sont soulevées en RDC. Les accusations de crimes de guerre et de trahison, surtout dans une région aussi sensible que l'Est de la RDC, soulèvent des questions sur les motivations derrière ce procès. Il pourrait être vu comme un moyen pour le gouvernement de renforcer son autorité ou de répondre à des critiques concernant la gestion des conflits armés dans le pays.
Maître Katende, très rapidement, votre point de vue, votre réaction.
Ma réaction est que le procès, quelles que soient les intentions qu'on peut lui attacher, le procès, il est important pour des personnes qui ont commis des faits qui mettent en danger la nation et leurs compatriotes. Mais ce que nous demandons au ministre d'État, parce qu'il n'est pas seulement le ministre des victimes, il est aussi le ministre des auteurs de crimes, c'est de s'assurer que la justice respecte les droits des uns et des autres. Il a pour devoir de s'assurer que la justice est équitable, que la justice est juste. Je rappelle à M. Yves Kissombé qu'il est interdit aux avocats qui sont directement impliqués dans les dossiers de prendre la parole dans la presse sans l'autorisation du bâtonnier. Mais les autres avocats qui ne sont pas intéressés dans une cause pour des besoins pédagogiques, ils peuvent en parler. Il n'y a aucune interdiction à cela. C'est juste un rappel que je lui fais. Enfin, je dis à M. Kamberé que les massacres de Kasika et de Makobola, on n'a jamais poursuivi personne. C'est lui qui a parlé de ces massacres dans son introduction. On n'a jamais poursuivi. Les personnes intéressées, dont certains, ont été dans le gouvernement où lui-même, M. Kamberé, était ministre. Donc, aujourd'hui, les soucis que nous avons, c'est vrai que nous appuyons que la justice fonctionne normalement, mais en tant que militants des droits de l'homme, nous devons nous assurer que les procès qui sont poussés par l'exécutif respectent le droit des uns et des autres. C'est à l'issue d'un procès régulier qu'on peut alors dire, voilà, la justice a été rendue. Je suis étonné qu'on me dise qu'on n'est pas venu dans ce débat pour parler des principes qui doivent être respectés dans ce procès, que de parler du processus de paix. Je souhaiterais que vous organisiez un autre débat sur le processus de paix, et en ce moment-là, on va aborder les questions politiques que les politiciens abordent.
Merci, Maître Jean-Claude Katendé. On va considérer cela comme votre conclusion, parce que nous sommes à la fin de l'émission. Maître Kissombé, vous avez 30 secondes pour conclure.
Oui, nous avons l'avantage d'être à la fois politique et avocat. Donc, parler des questions techniques ne nous dérange pas. Mais je rappelle quand même rapidement que non, c'est plus compliqué que ça. L'avocat, lorsqu'un procès est en cours, surtout lorsqu'il vient de démarrer, il est tenu à un devoir de respect des autorités judiciaires. Donc il ne peut pas faire comme M. Katendé, tout de suite remettre en cause la capacité des juridictions à assurer un procès équitable. Donc ça va plus loin que le fait de ne pas être avocat d'une partie à la cause. Hein, il faut beaucoup plus de réserve que ça. Mais sinon, sur le fond, je dis qu'il n'y a pas de raison de considérer que les garanties d'un procès équitable, dans le respect des règles d'un procès et d'un jugement par défaut, ne sont pas assurées. Il n'y a pas de raison. Et donc il n'a pas su prouver qu'à ce stade, la Cour ne donne pas de garantie sur les respects sur les droits de la défense, sur le respect du droit de la défense. Il n'a pas pu, donc faisons quand même un petit peu confiance.
Il demande au ministre de s'assurer justement que la justice respecte les droits des uns des autres.
Non, mais justement, ça veut rien dire, parce que le ministre ne s'assure pas du travail du juge. Hein, le ministre fait en sorte que la justice puisse s'exercer, mais en toute indépendance.
Merci.
Et effectivement, les garanties d'un procès équitable sont assurées en principe dans notre pays. Maintenant, le déroulement de tout procès permet de nous en dire plus, mais il ne faut pas enfoncer une porte ouverte.
Merci, Maître Kissombé. Maître Kamberé, vous avez 30 secondes aussi pour conclure.
Non, c'est simplement d'abord dire à Yves que je n'ai pas attendu Jean-Claude d'accuser les membres de la Cour qui vont connaître de cette affaire, de quoi que ce soit. Je crois qu'en tant qu'activiste des droits de l'homme, il s'inquiète, il s'interroge sur l'efficacité du procès et sur la qualité, étant donné que si c'est là qu'ils sont accusés, et vous avez dit 4 sont présents, 20 absents, si les principaux ce sont les 20 absents, en réalité, comme nous avons dit dans l'approche holistique de la justice transitionnelle, c'est la justice, mais poursuivre les auteurs des crimes pour qu'ils n'échappent pas, des crimes internationaux pour qu'ils n'échappent pas, qu'on ne vienne pas ici avec un procès où il n'y aura que des soufioufs, alors que les vrais auteurs vont continuer à opérer.
le procès n'aura pas d'efficacité. Et nous voulons encore dire à Jean-Claude, vous parlez de massacre de Makobola et ainsi de suite, mais parce que les massacres continuent à Beni, à Rutshuru et partout, et que ces massacres doivent s'arrêter. Merci. Ceux d'avant, comme ceux qui se perpètrent aujourd'hui, sont imprescriptibles, ce sont des crimes que les auteurs ne pensent pas que...
Merci,
parce que nous avons été dans un gouvernement avec... Que
merci beaucoup, maître Kambéré.
Non, pas du tout.
On vous a bien suivi. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.